Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Au programme de cette émission, Zelensky entre dans la cour des grands. Le président ukrainien vient tout juste d'arriver au G7 au Japon après avoir fait un détour par la Ligue arabe. Que se trame-t-il entre la réunion ouverte avant-hier par Xi Jinping avec les 5 républiques d'Asie centrale sans Poutine, le go de Joe Biden pour les F-16 et la formation des pilotes, le G7 qui à l'instant appelle la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression. Premier sujet de conversation. Nicolas Sarkozy condamné en appel, 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes pour l'ex-chef de l'État, une première et un verdict immédiatement décrié par l'intéressé dans le Figaro. Nicolas Sarkozy estime que les principes essentiels de la démocratie ont été bafoués. Il profite également de cet entretien au journal pour appeler son soutien à Emmanuel Macron et insiste sur une alliance avec les Républicains. Autre sujet pour les grandes voix. Quant à Emmanuel Macron, justement, il veut tourner la page, vite, des retraites. Pour ce faire, il tend la main aux classes moyennes, celles qui regroupent entre 2/3 et 3/4 des Français. 2 milliards d'euros de baisse d'impôts annoncés d'ici 2027. Est-ce suffisant pour stopper la haine anti-Macron? Vous avez le programme, le débat de grande voix, c'est parti. Le voilà entré dans la cour des grands. Il aura fallu 1 an de guerre, une opiniâtreté sans faille pour que le président ukrainien, toujours en t-shirt, soit finalement entendu par le monde. Hier, alors que Volodymyr Zelensky quittait la réunion de la Ligue arabe pour rejoindre le G7 au Japon, Joe Biden donnait son feu vert pour l'envoi d'avions de chasse F-16 à l'Ukraine en même temps que la formation des pilotes. Le G7 à l'instant appelle la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression. C'est une étape majeure de franchie pour le président ukrainien. Charles Villeneuve.
Majeur. Moi, j'avoue que je suis assez stupéfait de l'initiative, par l'initiative du président américain, de fournir en réalité le début de la construction d'une armée de l'air aux Ukrainiens, à Zelensky. Une armée de l'air qui ne va pas se construire en quelques semaines ni en quelques mois, mais au moins en 2 ans, avant que les premiers avions ne soient opérationnels, les F-16. Fournis par des pays tiers, pas directement par les États-Unis. Je pense que le président des États-Unis, mais là je laisserai la parole à Gérard, qui le connaît mieux que moi, fait tout ça d'abord sous pression des pays européens, et notamment des Anglais, en même temps des Pays-Bas, des pays baltes, des pays du Nord. Et il faut pour à peu près 18 mois minimum pour former un pilote, les Français d'ailleurs. Ont offert la possibilité aux Ukrainiens d'envoyer des pilotes et qui seront formés soit en Provence, de Salon de Provence ou de toutes les autres bases où se situe la force aérienne stratégique française. Et bien évidemment, tout ça sera accompagné d'un armement assez sophistiqué, puisque Zelensky, qui a réussi un coup de maître déjà au niveau de la Ligue arabe, à Jeddah en Arabie Saoudite, et ensuite être invité à Hiroshima, en même temps que d'autres pays qui, jusqu'à présent, ont été récalcitrants d'appuyer ou de condamner en tout cas la Russie pour son invasion en Ukraine, c'est-à-dire le Brésil, l'Indonésie et l'Inde.
Gérard Carrérou.
Oui, moi je pense que c'est une décision, je pèse mes mots, j'y ai bien réfléchi depuis hier soir, une décision malencontreuse et gravissime.
De quoi donc ?
Cette décision du président des États-Unis d'autoriser la transmission d'un certain nombre, qu'on ne connaît pas encore les chiffres, mais d'un certain nombre d'avions américains de dernière génération, en tout cas d'avions extrêmement modernes, d'avions de combat, d'avions à long rayon d'action. Jusqu'à présent, en fait, si vous voulez, depuis le début de cette guerre, il y a un certain nombre de verrous. Et parmi les verrous, effectivement, pour éviter une escalade qui nous conduirait éventuellement, disait-on, à la Troisième Guerre mondiale, il y avait effectivement, il ne faut pas qu'il y ait la guerre aérienne avec justement des moyens d'action aériens qui permettent d'atteindre le territoire de la Russie. C'était ça la règle. Et on s'est félicité, je ne veux pas changer d'avis, autour de cette table ici à plusieurs reprises, que Biden exerçait une sorte de responsabilité en tant que président et en même temps en tant que chef du camp occidental, une responsabilité pour éviter cette escalade. Aujourd'hui, sous la pression de ce que j'appellerais, entre guillemets, des « va-t-en-guerre » ou des « jusqu'au-boutistes », il y en a dans la coalition qui a raison sur le fond de soutenir l'Ukraine, il y a des va-t-en-guerre et des jusqu'au-boutistes.
Qui ?
Oh ben, par exemple, la Pologne, je mettrais la Pologne, les Pays-Baltes, et quelques autres, l'Angleterre. Et quelques autres
ceux
pays.
Ceux qui ont surtout peur de l'ex-Union soviétique et de la Russie d'aujourd'hui.
Donc, il y avait effectivement deux camps, disons les modérés, qui étaient pour le soutien à l'Ukraine et éventuellement des envois d'armées, etc. Sauf avec la barrière de... Là, la barrière est franchie. Je pense que c'est une... Alors, pourquoi elle est-elle franchie ? On dit, oui, bah, peut-être que Biden, finalement, a cédé aux pressions. Ce n'est pas simplement céder aux pressions. Hein, sous la pression amicale de mes amis, j'ai cédé. Non, ce n'est pas ça. C'est l'ouverture du dernier verrou avant éventuellement des incidents qui deviendront des accidents terribles s'il y a effectivement un avion. Et quand... Alors, dernier point, dernière... En deux secondes, on dit aujourd'hui 18 mois, c'est du... Je pense que c'est du baratin. 18 mois, c'est du baratin. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des pilotes ukrainiens, américains et autres qui s'entraînent déjà depuis des semaines. On sait même qu'il y en a en France, sur une ou deux bases dont les noms ont été donnés, qui s'entraînent. Donc ce n'est pas 18 mois.
C'est plus court.
Ça sera plus court. Et s'il y a une offensive dure qui se déclenche dans les prochaines semaines, je dirais que peut-être même pourrait-on voir ça.
Michel Cotta.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette ligne rouge qui a été franchie. Je pense que... C'est très bien de donner des avions à longue portée, c'est très bien de pouvoir se battre contre les Russes en Ukraine. Je ne suis pas sûre, alors je sais bien que les Américains contrôlent tout, y compris l'usage des avions qu'ils donnent, et y compris les consignes qu'ils donnent peut-être aux pilotes ukrainiens. Moi, je trouve que sur le passage à la Troisième Guerre mondiale, je trouve qu'on vient de franchir un cap gigantesque et qui, personnellement, me fait peur, parce que au fond, tout le monde s'est engagé derrière l'Ukraine pour rétablir les frontières de l'Ukraine. On laisse la Crimée un peu dehors, parce que bon, rétablir les frontières de l'Ukraine, ça ne veut pas dire taper Moscou. Voilà. Et moi, c'est ma crainte, et on sait bien que c'est la crainte de tout le monde.
Catherine.
Oui, moi, je comprends, mais je vois autre chose. C'est que ce voyage de Zelensky devant les pays de la Ligue arabe qui n'ont jamais sanctionné, qui sont toujours du côté de Moscou. Et il est venu leur parler, leur expliquer donc ce qu'était la situation de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, il vient parler à ces pays-là alors qu'il y a une lassitude de tous les pays du Sud vis-à-vis de la guerre. Et donc, moi, je pense que ça, c'est très, très important parce qu'on voit aujourd'hui que tous les pays essaient d'être médiateurs entre Kiev et Moscou. Et donc, c'est pour éviter...
Drôle de médiation que d'envoyer des avions F-16, quand même. Hein.
Attends, ils ne sont pas encore envoyés. Je pense qu'aussi, ça a une part de communication pour faire peur et pour forcer peut-être... Bon, forcer les belligérants à s'entendre. Mais moi, je pense que avant que les avions F-16 soient arrivés, je pense que c'est pour marquer un grand coup parce qu'il y en a marre. Bon, cette visite du président Zelensky à Jeddah a été organisée par Emmanuel Macron lorsqu'il est venu à Paris le soir. C'est lui qui lui a dit, qui lui a prêté son avion pour y aller. Et d'ailleurs, c'était accepté par le président saoudien, qui a comme ça évité que la venue du Syrien soit, ce soit lui la vedette. C'était Zelensky la vedette, et il a parlé.
Il a volé la vedette à Bachar al-Assad.
Mais il vient aussi, aujourd'hui, il est à Hiroshima. Et pourquoi vient-il à Hiroshima ? Parce qu'il y a à la fois les dirigeants indiens, indonésiens, brésiliens, et qui eux aussi veulent faire entendre la voix du Sud, qui eux en ont marre de la guerre et qui ont besoin de voir les deux. Et moi, je crois qu'au moment, jamais autant de gens, d'intermédiaires, se préparent à essayer d'organiser la paix pour éviter tout ça. Et moi, je pense que derrière cette nouvelle initiative de Biden est peut-être quelque chose qui va forcer tout le monde à organiser encore plus la paix.
Oui, moi, je ne crois pas, Catherine. J'écoute avec intérêt ce que tu as dit. C'est intéressant et c'est une possibilité. Après tout, nous n'avons pas toutes les cartes en main, aujourd'hui, surtout ce matin. C'est trop récent. Mais je ne crois pas. Et je dirais que si on doit mettre dans l'échelle des motivations de Biden, du président Biden, il ne faut quand même pas oublier une chose. D'abord, en Amérique, ce sont toujours les démocrates qui ont déclenché les guerres. Hein, bon, à commencer par la guerre du Vietnam. Mmh. Souvenons-nous quand même de l'histoire. Et c'est en général les républicains qui ont terminé les guerres. Oui. Regardez Kennedy d'un côté et Nixon de l'autre. Bon.
Oui. Et c'est une conséquence. Ce sont les républicains qu'on accuse.
Mais comme les socialistes en France.
Mais dans ce conflit, notamment, le soutien de l'électorat et le soutien des démocrates est beaucoup plus dans ces constitutifs de sa majorité que le soutien des républicains, qui est très divisé. Et nous sommes à moins d'un an, nous sommes au début des primaires aux États-Unis, à moins d'un an de l'élection présidentielle. Je n'exclus pas qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions extérieures, mais il y a eu aussi des pressions intérieures pour aller dans ce sens de dire il faut absolument être le soutien jusqu'au bout.
On marque une pause 10h17 et on reparle de l'Ukraine, de Zelensky, de Hiroshima, du G7, juste après cette pause publicitaire. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, alors que le président Zelensky vient d'arriver à Hiroshima, à ce sommet du G7 qui prend une importance assez inouïe, puisque depuis l'annonce de l'arrivée du président Zelensky, évidemment, ce sommet du G7, avec l'annonce également de les avions de chasse F-16 annoncés par Joe Biden, évidemment, tout cela prend des proportions. Aujourd'hui, le G7 appelle Pékin à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression. De son côté, le président Zelensky dit que le G7 permettra de se rapprocher de la paix, alors qu'on vient d'expliquer qu'il y a quand même la crainte d'une guerre. Donc,
mais on a juste raison. À partir du moment où on donne le feu vert de la constitution d'une armée de l'air, c'est une escalade indéniable dans l'utilisation des armes de guerre. Et c'est les armes l'aviation, on l'a vu durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est décisif. De toute façon, c'est une montée aux extrêmes. C'est le début d'une montée aux extrêmes. Je voudrais juste apporter une précision. On ne constitue pas une armée de l'air en deux coups de cuir à peau, ni en formant ici ou là quelques pilotes. On met à peu près au minimum 2 ans pour constituer une armée de l'air, parce que c'est très compliqué une armée de l'air.
Ce n'est pas seulement
des chasseurs d'attaque ou des chasseurs bombardiers, c'est aussi des chasseurs de défense, de repérage, du renseignement. C'est tout un ensemble.
Il y a des plans de vol, c'est très compliqué.
Qui est en partie en place. Parce qu'on oublie chaque fois quand on parle des échanges, notamment sur le plan militaire, que ce qui est décisif dans l'armée, dans ce conflit-là, c'est le renseignement satellitaire fourni en direct au centre d'opération des armées à Kiev par les Américains. C'est ça qui est décisif et c'est ça qui a mis en difficulté l'armée russe. Alors, les avions, c'est à peu près au minimum une cinquantaine de F-16. Il y a plus de 400 F-16 en Europe. Je ne vais pas citer tous les pays, les Pays-Bas, les pays baltes, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, etc. etc. Donc il y aura aucune difficulté de fournir des F-16. Beaucoup de pays
encore
sont déjà...
Encore faut-il savoir les piloter.
Voilà, mais ça, et ça, la formation d'un pilote, ce n'est pas la formation... Vous savez,
c'est pas une R5. Hein.
C'est pas une Smart.
C'est ça, on est d'accord.
Oui, mais il y a quand même quelque
vous
chose...
Vous êtes plus à la page que moi.
Je suis d'accord sur la technique, ce que tu viens de dire. La réalité géopolitique, c'est qu'à partir du moment où ça vient d'arriver depuis hier soir.
Oui, mais on est d'accord.
Depuis qu'on a dit qu'il est tout à fait possible, puisque c'est le président des États-Unis, et c'est pas n'importe qui, c'est pas le général d'Artampion au fond de l'Ohio qui a annoncé ça. C'est le président des États-Unis, escalité. À partir du moment où on met dans la tête que cette guerre inclura les avions de combat qui pourront aller sur l'ensemble...
C'est ce que je te dis, c'est une montée aux extrêmes.
C'est donc une donnée qui a changé la nature de cette guerre, que vous le vouliez ou non.
Je trouve Catherine très, très optimiste et avec beaucoup d'arguments. Et d'ailleurs, personne ne sait...
Cela dit, elle est en kaki aujourd'hui.
Personne ne sait... on est d'accord, on n'a pas la science infuse. Simplement, moi, je veux bien que tout le monde se déclare intermédiaire. Que l'Arabie saoudite, que la Chine, etc. Mais moi, je remarque que quand même le président ukrainien fait une tournée de guerre dans le monde entier. Quand il voit les responsables,
c'est normal,
il ne leur dit pas... Non, mais il est à Hiroshima, mais je veux dire, il ne leur dit pas à ces gens-là, il ne dit pas au G7, je suppose, je suis prêt à négocier. Il dit au contraire, je veux toute ma région, je veux toute l'Ukraine et je ne reculerai pas. Alors c'est ça, lui il change pas de discours.
C'est normal.
C'est
normal.
Moi je veux bien que tout le monde
le dise. C'est le début.
Non, mais moi je ne peux pas arriver pour dire j'ai compris, je lâche.
Mais
je veux dire, non mais écoute, c'est de la communication.
Encore une fois,
les intermédiaires ne sont pas très juste. Tu n'arrives pas à la table d'une négociation en disant
déjà
je suis d'accord. Je vous rends la Crimée, je vous rends le Donbass.
Non mais parce que Lula qui est en train de changer dit il faudra des compromis. Tout le monde est
Et
le président français voudrait très vite organiser à Kiev un sommet pour la paix. Faire venir tout le monde à Kiev. Bon, donc il se passe des choses. Mais est-ce que vous auriez pu imaginer, il y a 15 mois, que M. Zelensky, que tout le monde prenait pour un zozo et un petit comédien...
le prendre pour un zozo.
Oui, bon, mais il s'avère être un homme d'État, puisse aller devant ses sommets, soit entendu, rappelle opportunément à la Ligue arabe que les Russes de Catherine II avaient tué les Tatars, c'est-à-dire des musulmans, et que tout le monde avait des choses à se reprocher dans la vie. Non, mais peu importe. Mais ce qu'il raconte, toute cette histoire de l'Ukraine... Bon, il s'est fait entendre. Je ne sais pas s'il va les convaincre, mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde en a marre de la guerre. Tout le monde voit son intérêt.
Oui, mais alors, il y a quelque chose. Tout le monde en a marre de la guerre. Mais il y a peut-être une troisième guerre mondiale qui est sous-jacente.
Il y a quelque chose qui me choque, et je dirais très clairement, dans l'entreprise de glorification absolue. On a l'impression aujourd'hui de Superman Z. Zelensky, c'est Superman Z. D'ailleurs, j'en prends un exemple, on le dit partout et on se glorifie d'ailleurs en tant que Français d'avoir prêté notre avion A300.
Tout le monde prête les avions, les Italiens avaient fait ça.
On en fait un argument.
Ne sois pas populiste là.
Je ne suis pas populiste, c'est dans les déclarations qu'on met ça en valeur. Je veux dire par là qu'on est en train de faire...
tu parles comme Florian Philippot.
On fait super Churchill, sauf que Churchill, effectivement, c'était pas Zelensky. Moi, je pense que là, il y a aussi une exagération, si tu veux, sur le plan de la glorification. Leader courageux, leader tout ce que tu veux, homme d'État, si tu veux révéler tout ce que vous voulez, sauf que ce n'est pas Superman.
En attendant, vous avez quand même un sommet, Charles Villeneuve, en Chine, par Xi Jinping, avec les 5 puissances asiatiques, sans Poutine. Et ça, c'est important.
Qui, jusqu'à présent, était toujours sommet de l'Asie centrale, avec ces 5 pays ex-soviétiques, présidés toujours par Poutine. Ouais. Or, Xi Jinping a rassemblé ces 5 pays, on peut les citer d'ailleurs, c'est le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan,
le Tadjikistan,
et le Kyrgyzstan, et le Tadjikistan, absolument. Jusqu'à présent, c'était un sommet qui se tenait à peu près tous les 2 ans, présidé par Poutine, et Xi Jinping, qui commence à constituer son bloc, si vous voulez, oriental, dans le cadre du duopole dont nous avons parlé, c'est-à-dire États-Unis et évidemment Chine, commence à peupler en quelque sorte son bloc, à l'inverse du bloc occidental qui se réunit à Hiroshima. Simplement une indication, une information. Pour constituer une armée de l'air à partir de 50 avions à peu près de chasse, bombardiers stratégiques aussi, etc., il faut à peu près 20 milliards de dollars. Donc, on n'en est pas encore là, non plus. C'est un chiffre très important. Qui va les débourser ?
Non, ce qui est drôle, c'est que le président Poutine, qui était absent de tout ça, a quand même envoyé un message à Jeddah pour féliciter les Arabes d'être ensemble et d'avoir trouvé des solutions pour mettre la paix, par exemple, au Yémen, pour les féliciter d'avoir... Donc
c'est
fort de café.
10h27.
Je pense pas que les Chinois veulent absolument exclure le président russe de leurs travaux. Simplement, peut-être que c'est une façon de ne pas être jugé parti. Si le président russe assiste à leur sommet, ça veut dire, d'une certaine façon, ça les entraîne. Tandis que là, ils veulent, en effet, les Chinois, rester intermédiaires
et rester
mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de réaction de Poutine jusqu'à présent.
10h27, il y en aura sans doute une, on aura l'occasion d'en reparler. 10h28 même, alors je suis en retard, mais c'est pas grave, l'émission recommence dans un petit instant. Juste pour vous signaler que ce week-end, l'antenne libre de Yann Moix est remplacée par la libre antenne de Valérie Darmon. Dès 23h, livrez-vous à l'écoute bienveillante de Valérie
Paris et confiez-lui vos questionnements et vos doutes. Vous voulez témoigner et partager votre expérience? N'hésitez pas à composer le nouveau numéro d'Europe 1, non surtaxé et inclus dans votre forfait, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, Libre Antenne, Valérie Darmon, ce soir et demain, de 23h à 1h, sur Europe 1. Dans un instant, on revient avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h,
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné en appel mercredi à 1 an de prison ferme pour corruption, trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy aussitôt a annoncé par la voix de son avocate ce pourvoir en cassation. Et dans cette interview au Figaro hier, il déclare ne pas être surpris, mais rappelle que depuis le début de l'affaire, les principes essentiels de la démocratie ont été bafoués. Moi, ce qui me frappe, c'est cette phrase où il dit que dans cette affaire, tout est factuellement faux, juridiquement illégal et moralement insensé, Catherine Ney.
Oui, moi je comprends son courroux et je vais vous raconter une histoire qui est un peu la matrice de tout cet acharnement contre lui. C'était aux universités d'été à La Rochelle en 2010 et là vous pouvez regarder sur internet, on la voit. On voit Hollande apostropher Edoui Plenel. Alors, tu n'as pas encore arrêté le délinquant, vous entendez Sarkozy. Non, je fais mon travail. Vous avez fait plus que votre travail, lui dit Hollande. Un militant passe, s'arrête et lance à Plenel. On va l'avoir, Sarkozy, ce con ? Hollande rigolard. Il a tout dit. Et comme extraordinaire, vous voyez, c'était la campagne de 2012 et entre les deux tours, un 28 avril où il y a un meeting avec Nicolas Sarkozy à Clermont-Ferrand, Mediapart sort et publie
un article,
oui, où on montre que le président aurait reçu un document insinuant que Nicolas Sarkozy aurait reçu 50 millions de Kadhafi pour financer sa campagne en 2007. Alors aussitôt, Nicolas Sarkozy, l'avocat, Bruce Hortefeux, porte plainte pour usage de faux. Verdict, le tribunal dit sans doute c'était pas des documents réels, mais Mediapart n'a pas à être condamné puisqu'ils étaient de bonne foi. Donc, les trois font appel, le verdict, toujours le même, circulé, il n'y a rien à voir. Et en plus, on demande à Brice Hortefeux et à Nicolas Sarkozy de payer une amende à Edoui Plenel et à Arfi. Donc, c'est extraordinaire.
Arfi,
voilà. Et c'est comme ça que l'affaire a commencé, c'est-à-dire les 50 millions. Le PNF qui a été créé par par Hollande, vraiment, avec le juge Tourneur, se lance dans une enquête, mais avec une débauche de billets d'avion, ils vont enquêter partout. Kadhafi est mort depuis 2011, mais tous ceux qui étaient de son régime, qui pourraient être au courant de l'affaire, fait que le juge Tourneur va en Tunisie, en Libye, partout, pour essayer, en Libye, en Afrique du Sud, pour essayer d'avoir des documents. Ils ne trouvent rien et ils mettent le président, qui est à l'époque le leader de l'opposition, et son avocat sur écoute pendant 4500 heures. Et c'est de là, et à l'époque, Hollande dit même à des députés socialistes, ne vous inquiétez pas, je le surveille, Sarkozy, je sais exactement ce qu'il fait. Vous voyez, tout ça est quand même très bizarre. Et c'est à travers ces conversations que l'on trouve qu'il parle avec sur une autre affaire, sur une autre affaire, celle-là, qu'on trouve qu'il pourrait avoir un chose de corruption parce qu'ils ont évoqué de peut-être donner une place. Bref, eh bien, moi, je vais vous lire quelque chose. Ah. Vous voyez, encore quelque chose. Plenel, lui, il a été écouté par Mitterrand. Vous voyez ? Et ça, il l'avait très mal pris. Il avait fait tout un potage d'hommes offensés. Il avait même écrit un livre qui s'appelait « Les mots volés ». Et il écrivait « Un dialogue au téléphone, c'est comme une conversation avec soi-même. Si l'interlocuteur est un intime, on s'y livre, on s'y met à nu, on y pense tout haut, on parle trop vite, on exprime ce qu'on ne pense pas vraiment, on ment, on profite des bêtises, on dit n'importe quoi, on affirme comme vérité, sans doute on doute profondément, on émet des hypothèses, on tâtonne, on trébuche, bref, on se croit chez soi, à l'abri, dans une intimité protectrice, délaissant les apparences, oubliant les convenances.
Bon. C'est ce qu'écrit Plenel.
Voilà, c'est ce qu'écrit Plenel. Eh bien, c'est à partir de ces 4500 et des bribes rapprochées que les juges ont vu un pacte de corruption pour quelque chose où il n'y a pas eu d'intervention pour M. Azibert, lequel n'avait jamais rien demandé, ne voulait pas aller à Monaco. Mais c'est une histoire de pieds nickelés. Et c'est pour ça, voilà, tout ce qui arrive à Nicolas Sarkozy aujourd'hui part de cette histoire.
Oui. Non, mais j'entends Catherine et moi je vais vous dire, moi je suis je crois, est si la seule qui n'ait pas voté pour Sarkozy, jamais. Bon, donc, je peux dire ce que, je peux dire vraiment ce que je pense. Moi, il y a quand même, juridiquement, des choses insupportables, notamment l'atteinte à la confidentialité des liens entre un client et un avocat est absolument anormale. Et je comprends très bien que l'actuel ministre de la Justice, qui a été lui aussi entendu pour d'autres choses et qui, par conséquent, pouvait, dans le cadre de cette affaire, avoir parlé avec des clients, je comprends qu'il proteste et qu'il ait maintenu son... Deuxièmement, il y a quand même, on a beau dire maintenant, non, il n'y a pas de combat politique entre les juges et les... Moi, je crains, et au-delà de Sarkozy, ça va autant du côté de la droite que de la gauche, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté maintenant des juges de faire un gouvernement des juges. Et ça, moi, franchement, je n'en veux pas. Et enfin, troisième argument qui a été reproché à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir mis en cause la présidente de chambre qui, effectivement, avait plusieurs fois exprimé son opposition à la réforme de Sarkozy. Moi, je crains qu'il n'y ait derrière tout ça une sorte de vengeance. Moi, je ne dis pas qu'elle est consciente, organisée, etc. Mais il y a une conscience collective, en tout cas, des magistrats, qui est très, très dangereuse pour la démocratie, quelle qu'elle soit, à un moment donné où les hommes politiques ne sont pas crédités de beaucoup
on
de...
On va marquer une pause et on va reparler de Nicolas Sarkozy avec Charles Dineuve et avec Gérard Carreau dans un instant. Vous êtes dans les Grandes Voix d'Europe 1, à tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, avec Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau qui revient donc sur cette condamnation en appel de Nicolas Sarkozy.
Oui, puisque c'est l'émission des où on raconte des histoires intéressantes, d'ailleurs celle de Catherine l'été. Moi je vais en raconter une très courte qui est celle du procès du cardinal de Rohan en 1786. Dans l'affaire, alors je renvoie pour tous ceux qui s'intéressent.
L'affaire que tu as bien suivie.
Oui, que j'ai bien suivie, mais l'affaire du collier de la reine. Qu'est-ce que c'était l'affaire du collier de... Je ne vous raconte pas l'histoire, dire simplement quel était le but de l'opération. Il y avait un monsieur qui était un personnage extrêmement influent, qui était impliqué dans cette affaire des colliers de la reine, qui c'était le cardinal de Rohan. Normalement, le roi a eu le tort de vouloir la justice. Il a demandé donc que le cardinal soit traduit devant les magistrats, qui à l'époque déjà, comme nos magistrats, n'avaient qu'une envie, c'est de peu à peu grignoter et se substituer au pouvoir du roi. Ça. Et que se passe-t-il? Le roi pense, et Marie-Antoinette, la reine, qui sont totalement innocents dans cette histoire, ils pensent que le cardinal de Rohan va donc devant la grande assemblée des magistrats, va être condamné. Eh bien non, le cardinal est relaxé. Et c'est la reine qui... On dit, mais si c'est pas le cardinal, ça veut dire que c'est la reine qui était coupable. Marie-Antoinette, ce jour-là, apprend le verdict, elle pleure. Ce jour-là, le destin du couple royal est prononcé. C'est pas moi qui le dis, c'est Goethe. Goethe, le grand écrivain allemand, écrit dans cette affaire... J'ai vu les prémices de la révolution qui est intervenue 4 ans après. Pour Sarko, c'est la même chose. Le bras armé de certains magistrats, avides de vengeance, les petits pois, etc., veulent se payer depuis 10 ans Nicolas Sarkozy. Et là, ils voulaient non seulement se le payer, mais se le payer par une peine infamante. La peine infamante pour l'ancien président de la République, pour qui j'ai voté, d'ailleurs, je le dis au passage, pour pas qu'on m'accuse.
Comme ça, on saura tout.
Pour pas qu'on m'accuse, effectivement.
Oui, mais entre Michel et...
La peine infamante, c'est la faute de la prison dont il rêve, c'est le bracelet électronique assorti, effectivement,
de
la peine complémentaire d'inéligibilité. Pour un homme comme Nicolas
Privation
Sarkozy, on peut avoir, effectivement, pour lui, tout ce qu'on veut comme sentiment ou comme ressentiment. Mais on ne peut pas tuer un président de la République par une fausse affaire, parce que c'est une fausse affaire. Tu l'as expliqué, Catherine. Les filets dérivants, c'est inacceptable. La confidentialité avocat-client, c'est intangible. Des juges qui auraient dû se déporter parce qu'ils étaient de parti pris, c'est vrai pour le juge qui a présidé.
Charles.
Et dernier point, des preuves inexistantes.
Oui, non, mais revenons au jugement, au rendu du jugement. Il est très intéressant et très significatif. Ce qui est contestable dans cette affaire, c'est qu'en réalité, on accroît les pouvoirs du juge d'instruction, évidemment, et on diminue les droits de la défense et du rôle de l'avocat. C'est ça qui est très embêtant, parce que la justice autorise par ce jugement une traque judiciaire comme on traque un gibier. Et quand vous revenez sur toutes les affaires constituées qui vont être jugées aussi par la suite, sur Sarkozy, vous trouvez une continuité du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du rôle sur les écoutes. On écoute un avocat et son client, ce qui est contestable. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dans tous les manuels de déontologie de l'avocat et des barreaux. C'est passé, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour de cassation est intervenue déjà dans cette affaire. Elle a autorisé les écoutes téléphoniques.
Une fois, puis après, la deuxième fois, elle est revenue dessus. Et, voilà. Et cette exception, ça sert pour Sarkozy.
Oui, mais le recours qu'on va faire dans cette affaire ne peut tenir qu'à une seule chose, c'est que la présidente du tribunal, qui était contre la, et qui l'a dit d'ailleurs dans les journaux, Le Monde réforme, l'a rappelé,
en 2009,
quand la réforme pénale de Nicolas Sarkozy aurait pu quelque sorte se récuser car elle n'offrait pas toutes les garanties d'impartialité. C'est là-dessus que la Cour de cassation peut statuer. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'il faudra suivre.
Et vous avez vu que c'était la Michel première Cotard. Réaction. La première réaction, justement, a été de dire « Ah, c'est pas bien d'avoir mis en cause, on met jamais en cause un magistrat, même lorsque... » C'est pas vrai. On peut mettre en cause un magistrat quand, justement, il aurait dû être déporté.
Alors, Nicolas Sarkozy, qui profite de cet entretien au Figaro pour parler de la politique actuelle, du président de la République, dont il annonce, il répète qu'il a été son soutien, et on sent qu'il dit aux Républicains, tendez la main à Emmanuel Macron une fois
de plus. Il dit à Macron de leur tendre la main aussi.
Exactement.
Il dit la vérité, c'est-à-dire que pendant des années, les Républicains ont demandé qu'on fasse une réforme de la retraite et que quand on l'a fait, ils ne sont pas là. Donc, quand même, de ce point de vue-là, je trouve qu'il a plutôt raison de le dire. Moi, ce qui me paraît incroyable, c'est que dans tout ça, à l'intérieur de son mouvement, il a été très, très peu défendu, Nicolas Sarkozy. Alors, on a entendu effectivement Bruno Retailleau dire « il faut tourner la page ». Bon, manifestement, les Républicains veulent se débarrasser maintenant de Nicolas Sarkozy
Sur le plan politique, effectivement, je pense qu'il aurait dû, enfin il me semble, dans son interview du Figaro, il aurait dû se dispenser de la partie des deux dernières questions. D'abord parce que on l'interrogeait sur ce qui lui arrive, sur son procès, on ne l'interrogeait pas sur la politique.
D'accord, mais Sarkozy, c'est Sarkozy, il dit ce qu'il veut dire.
Il confirme ce qu'il nous avait même dit à nous il y a 15 mois, ou je ne sais combien, c'est-à-dire qu'il faudrait, il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir Macron. Moyennant quoi, il n'a pas convaincu son parti, et il ne le convaincra plus maintenant, c'est fini. Il est divisé.
Pour chez les LR, vous dites le...
tort, à mon avis, autant il a raison sur tous les arguments qu'il a développés.
Il fait l'interview qu'il veut. Oui. Manifestement, il ne veut pas. Bon, évidemment, on sent très bien que beaucoup de gens allaient dire « Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, le président de la République, pour éviter cette condamnation ?» Il n'a rien fait, ça l'arrange. Donc, il voit les choses. Sarkozy dit d'abord et prend la responsabilité de dire « Non, c'est pas le président de la République, comme on dit, qui m'a accablé à travers les juges.
» Une pause et dans un instant, on parle justement d'Emmanuel Macron et de sa proposition de se tourner vers les classes moyennes. À tout de suite.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Macron dans tout ça. Eh bien, il veut aller vite, très très vite, en tournant la page sur les retraites. Maintenant qu'il tend la main aux classes moyennes, les classes moyennes qui sont entre 2/3 et 3/4 de la population, il promet des baisses d'impôts, alors que en même temps, la haine anti-Macron grandit. On a vu l'épisode malheureux de Jean-Baptiste Trogneux qui s'est fait rouer de coups par des individus tout simplement parce qu'il était le neveu du président. Et puis dans un autre genre, il y a quand même des recadrages en règle comme Charles de Courson sur Europe 1 cette semaine qui prévient le président de la République en disant c'est une mauvaise façon de gouverner. Il parle de dérive autoritaire et violenter la société, Gérard Carrérou.
Depuis effectivement la fin provisoire, c'est-à-dire le, le Conseil constitutionnel et la décision du Conseil constitutionnel de ne pas annuler effectivement la réforme des retraites, le président de la République n'a qu'une hâte, mais frénétique, c'est de s'en sortir. Comment ? Et je le comprends d'ailleurs. Comment passer à autre chose ? C'est quand on a une mauvaise affaire qui vous colle à la peau, on n'a qu'une envie, c'est de dire comment passer à autre chose. Alors il a essayé une stratégie qui est ce que les anglo-saxons appellent le carpet bombing, c'est-à-dire le tapis de bombe, c'est-à-dire ouvrir des fronts partout à la fois. L'industrialisation, les impôts, il y a 10 sujets qui sont lancés comme ça à la réflexion. Mais ça marche pour l'instant. Ça peut marcher peut-être, on verra. Ça ne marche pas pour l'instant. Les gens reviennent toujours.
Trop d'impôts, tu d'impôts, trop de discours, tu le discours.
Trop de discours, tu le discours. Donc ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que je crains pour le président de la République, si j'ose dire, qu'il y a quelque chose de cassé, que le ressort est cassé. Le ressort de la confiance entre, disons, une grande partie, je ne sais pas combien, peut-être deux tiers de la population, et lui, et que on ne peut pas recoller les morceaux, surtout quand on ne peut plus être candidat, il est difficile. Donc je ne crois pas que ça puisse se recoller. Ils vont encore, par exemple, il va y avoir un coup qui risque d'être un coup tordu, c'est-à-dire d'essayer d'empêcher que les députés ne votent la fameuse affaire de l'amendement de Courson, justement. Enfin, de la proposition de loi de Courson. Mais ils sont en train d'essayer de trouver le moyen, ou par l'article 40, ou par l'obstruction parlementaire, s'ils font ça, c'est relancer l'agitation dans le pays, etc.
Il n'y a pas d'autre solution pour Emmanuel Macron. Où il relance les grands débats en se disant il y a une chance pour que finalement l'industrialisation ça marche, pour que le chômage est au niveau le plus bas. Bon, il y a une chance que ça passe. Ou alors il faut faire ce que Jacques Chirac a fait dans son quinquennat, c'est-à-dire faire une petite loi sur le handicap, une petite loi sur la vitesse de la route. Moi, je préfère la première solution, même si, je suis d'accord, elle est la plus dangereuse et la plus polémique, en tout cas.
Catherine, dubitative, Catherine.
Oui, quel est le sujet, exactement?
Comment peut-il s'en sortir?
J'en sais rien, mais c'est vrai que chaque jour, le temps est là. Bon, alors, il faut attendre le 8 juin. Je pense que le 8 juin, je veux dire, c'est soit le début d'une fronde effrayante.
Bah, certains ne l'attendent pas, parce que le 6 juin, on aura à nouveau une journée de mobilisation, de manifestation, avec Madame Binet.
Mais est-ce qu'il y aura du monde? Pas sûr. C'est le 8 juin, politiquement, le choc politique, c'est le 8 juin. Est-ce que cette loi peut être adoptée? Je veux dire, Aurélien Pradier a dit « moi, je voterai ». Pour être logique avec lui-même, est-ce qu'on va frôler?
Et puis quel rôle a cette loi? Parce qu'on sait très bien que dans le processus.
Et puis même si elle est votée.
À défaut d'être logique avec les LR, il est logique avec lui-même.
Mais même si elle est votée à l'Assemblée, elle ne le sera pas au Sénat. Donc il ne peut pas y avoir de commission mixte paritaire pour être d'accord, parce que les sénateurs diront non.
Non, mais vous avez vu Mme Borne qui a déjà dit que cette loi était inconstitutionnelle. Selon l'article 40 de la Constitution, puisqu'on va voler les 18 milliards qu'on risque d'économiser, alors qu'on n'en sait absolument rien, parce que, encore une fois, on fait dire tout ce qu'on veut à ce rapport du corps, selon les scénarios économiques qui existent.
France Insoumise qui va déterminer, puisque c'est le président de la Commission des Finances, en l'occurrence, qui est de la France insoumise, qui va décider si effectivement il y a brèche dans le fameux principe de la loi 40, on ne peut pas introduire des dépenses sans les financer ou pas.
Non, mais déjà, le bureau de l'Assemblée.
Le bureau de l'Assemblée a tranché.
Qui a tranché, et puis maintenant, le président de la Commission des Finances, Coquerel, qui évidemment va trancher dans le même sens. Mais je crois que le gouvernement a le choix entre deux inconvénients. Soit passer en force en invoquant l'irrecevabilité de la proposition au titre de l'article 40 de la Constitution, auquel on fait allusion mes camarades, qui empêche les parlementaires d'alourdir les dépenses de l'État ou de diminuer ses recettes. C'est un passage en force, puisque vraisemblablement, on empêche à nouveau le vote. Et donc, ça délégitime encore plus, évidemment, la loi sur les retraites. Soit d'offrir une victoire symbolique à l'opposition, ce qu'il devrait faire, moi, je trouve, en acceptant de discuter et de mettre en voie le texte à choisir une, et puis choisir une voie médiane aussi, qui est de la discuter en déposant des centaines d'amendements. Pour qu'on n'ait pas le temps de la
voter. Oui,
ça,
c'est l'obstruction.
Parce que voilà, c'est l'obstruction. Mais non, moi, oui. Je pense que la vraie solution, c'est celle invoquée par Catherine, c'est que, de toute façon, cette voie sera rétablie par le Sénat.
Exactement.
Et c'est exactement donc, cette tactique.
Il reste que politiquement,
très fort quand même si c'est voté par l'Assemblée nationale.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas voté sur
des sujets. On parle de cette retraite. Moi, je reviens toujours à la retraite, mais on voit maintenant dans tous les journaux qu'il y a un problème énorme entre la baisse de natalité et l'augmentation des vieux. Par conséquent, à un moment donné, il faut qu'on devienne un peu responsable. Il y a un vrai problème de déséquilibre.
Oui, non, mais moi, je crois que ce qui est plus soucieux pour le chef de l'État, c'est que sa parole n'imprime plus auprès des Français. Il y a une sorte de lassitude. Et on ne retrouve plus le talent qu'il avait, le talent pédagogique qu'il avait, notamment en 2017 ou durant la crise des Gilets jaunes quand il a fait le grand débat. Il avait un vrai talent de persuasion, un vrai talent pédagogique. Ce double effet a disparu.
Merci les grandes voix, on se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, on dit bonjour à Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre. Et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Le Festival de Cannes déroule son tapis. Et bien nous, on déroule la nappe pour revenir sur les grands moments de table au cinéma. Et la comédienne Alice Paul nous rejoint juste avant midi pour partager notre plat du jour. A tout de suite.
A tout de suite.